RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix et désormais, vous le savez, en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. Il est des périodes charnières de notre histoire qui en disent long. Ainsi, à la jointure des années 1939 et 1940, ces mois d'hiver, de printemps, puis d'été, qui ont vu la drôle de guerre, puis l'invasion éclair de la France par la Wehrmacht et la fin de la Troisième République, à laquelle va succéder l'État français du maréchal Pétain. Aujourd'hui, nous allons revivre ces mois de Paris à Rome et plus particulièrement au Vatican. À travers le regard d'une personnalité d'exception, Vladimir d'Ormesson, qui était alors éditorialiste au Figaro, on va le voir dans un instant, issu d'une grande famille aristocrate, Vladimir d'Ormesson a été nommé fin mai 1940, ambassadeur de France près le Saint-Siège. Il restera au Vatican aux côtés de Pie XII jusqu'au 1er novembre 1940. Il fut donc un témoin privilégié de l'histoire, de notre histoire. Et tout ce journal de Vladimir d'Ormesson est enfin publié dans un volume intitulé « Ma tragique ambassade ». C'est publié aux éditions Talendier avec une préface substantielle de l'ambassadeur Gérard Haro qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour monsieur l'ambassadeur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous avez été notre ambassadeur en Israël, à Washington, aux États-Unis et puis aux Nations Unies. Et donc vous préfacez ce volume tout à fait exceptionnel du journal intime de Vladimir d'Ormesson qui était resté inédit. Et donc c'est l'occasion pour nous, dans cette édition du Racine du Présent, d'ouvrir à nouveau le dossier complexe de l'attitude de Pie XII face au fascisme italien et allemand. Nous sommes pour cela en duplex avec le professeur Philippe Cheneau. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en duplex de Rome. Vous êtes professeur d'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran à Rome. Vous êtes membre du Comité pontifical des sciences historiques. Vous êtes l'un des biographes de Pie XII. Vous avez publié en 2003 aux éditions du Cerf une biographie intitulée « Diplomate et pasteur ». Et votre dernier livre est au cœur de notre problématique puisqu'il s'intitule « La fin de l'anti-judaïsme chrétien, l'Église catholique et les Juifs de la Révolution française » au Concile Vatican II. Ça a été publié en 2023 au Cerf. Voilà notre thème aujourd'hui, Pie XII face au fascisme, à travers le magnifique journal de Vladimir d'Ormesson publié chez Talendier.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Alors je me tourne vers Gérard Haro. Vous êtes, je l'ai dit, ambassadeur de France. Vous nous avez représenté à Tel Aviv, à Washington et aux Nations Unies à New York. Vous avez également publié un livre aux éditions Talendier intitulé « Nous étions seuls ». Vous avez travaillé sur l'histoire diplomatique de cette entre-deux-guerres entre 1918 et 1940 et vous préfacez donc ces mémoires de Vladimir d'Ormesson publiées sous le titre « Ma tragique ambassade ». Vatican, 27 mai, 1er novembre 1940. Alors, Gérard Haro, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était Vladimir d'Ormesson ?
Bah, tout d'abord, il faut évidemment se référer à la famille d'Ormesson qui ont fourni à la monarchie depuis le XVIe siècle des premiers présidents du Parlement de Paris, des intendants, un contrôleur général des finances. Et alors c'est une famille qui offre la particularité, je dirais, d'avoir survécu à la Révolution et d'avoir continué à servir la France, et notamment dans des carrières diplomatiques. Et elle est évidemment connue aujourd'hui à cause de l'écrivain Jean d'Ormesson qui en était un. Si j'ose dire, un membre. Alors Vladimir, pourquoi s'appelle-t-il Vladimir ? Parce qu'il est né à Saint-Pétersbourg où son père était diplomate. Vladimir d'Ormesson va choisir une voie finalement un peu de traverse pour sa famille puisqu'il devient journaliste dans l'entre-deux-guerres et il devient rapidement une des grands éditorialistes de politique étrangère.
C'était quelqu'un qui comptait dans le paysage.
Ah oui, parce qu'à cette époque, la classe politique ne parle pas de langues étrangères, les journaux n'ont pas de correspondants à l'étranger, et donc il n'y a pas de télévision, il y a à peine la radio, et donc l'opinion politique étrangère est faite finalement par quelques personnes à Paris. Alors il y a évidemment Jacques Bainville à l'Action française, il y a aussi Geneviève Tabouis, Et il y a Vladimir d'Ormesson au Figaro. Et donc, c'est une personnalité, alors une personnalité sociale, parce que Vladimir d'Ormesson, c'est le château d'Ormesson, c'est un peu sacristie et château.
Clair dans le livre.
C'est très clair dans le livre.
Tout le monde est cousin de tout le monde, et tout le monde connaît tout le monde.
Tout le monde, et tout le monde a une particule dans son environnement.
Voilà.
Dans son... Mais en même temps, et c'est ça qui est intéressant, c'est la preuve que les déterminants sociaux, finalement, ne l'emportent pas toujours. On pouvait penser que d'Ormesson serait naturellement un péténiste.
Oui.
Et on découvre très rapidement dans ce journal, et de manière très honnête d'ailleurs, on découvre qu'il ne le sera pas. Alors,
pour quelle raison?
Ben, vous savez, ça c'est le mystère. Hein. Charles de Gaulle était issu lui aussi d'une famille monarchiste.
L'un et l'autre auraient pu être maurassiens.
Et tous les deux ont été influencés par Charles Maurras.
Naturellement.
Mais lorsque le jugement vient...
Oui.
Vous savez, au fond de moi-même, j'ai toujours pensé... Enfin, vous savez, quand on est au fonctionnaire français, de se dire... Il y a pour certains hauts fonctionnaires un moment de choix quand il y a une tragédie autour de lui.
Un seuil à franchir.
Oui. Et c'est là que vous révélez qui vous êtes. Vous voyez, par exemple, j'ai un de mes collègues qui était l'ambassadeur à Kaboul au moment de l'évacuation il y a 2 ans. Il a été formidable. Je dirais que c'était le moment, pour utiliser un terme presque chrétien, le moment de jugement.
Oui,
le moment de
révélation.
Et il a répondu positivement.
Alors voilà. Peut-être faut-il rappeler que Vladimir d'Ormesson, qui a une jeunesse assez, disons, oisive, enfin, il faisait partie de ces garçons issus de grandes familles, mais il a quand même été l'officier d'ordonnance du maréchal Lyautey.
Et ça a
joué un rôle important pour
lui. Oui, parce que comme on oublie souvent que finalement, les classes dirigeantes, la bourgeoisie, l'aristocratie ont fourni un grand nombre de morts au cours de la Première Guerre mondiale, parce que c'était les officiers et les sous-officiers de nos armées. Donc Vladimir d'Ormesson sert la France, il est grièvement blessé. Et il est tellement blessé qu'il ne peut pas revenir au front et il devient officier d'ordonnance du maréchal Lyautey, pour lequel il aura toujours la plus grande admiration.
Oui, et il le dit dans ses pages, dans ce journal intitulé, je le rappelle, Ma tragique ambassade, Vatican, 27 mai, 1er novembre 1940, c'est chez Talandier. On va y revenir. Alors, quel regard Vladimir d'Ormesson a-t-il porté sur l'évolution de la situation internationale dans l'entre-deux-guerres, notamment par rapport à cette tentation que vous avez décrite, Gérard Araud, dans votre livre « Nous étions seuls chez Talandier », cette recherche d'une entente avec l'Allemagne, quelle a été la position de Vladimir d'Ormesson?
Et Vladimir d'Ormesson est un parfait reflet de l'opinion publique française. Et notamment, il joue le jeu de la réconciliation avec l'Allemagne. Alors d'abord, dans un premier temps, j'oubliais, c'est un dur aux côtés de Poincaré. Il approuve la réoccupation, l'occupation de la Ruhr en janvier 1923. Et il appelle à l'exécution fidèle des dispositions du traité de Versailles. Puis il suit Aristide Briand et il participe à toutes les entreprises de réconciliation entre intellectuels français et allemands. Et au cours des années 30... eh bien, comme tous les Français, d'une certaine manière, il ne veut pas recommencer. C'est-à-dire, il a subi dans sa chair la guerre. Il a vu ce que c'était l'horreur des tranchées. C'est plus jamais ça. Et donc, il ne le dissimule pas. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est sa parfaite franchise.
Oui.
Il approuve Munich. Et dans son journal, il y a plusieurs pages où il exprime sa joie, une joie intense, que la paix ait été sauvée.
Alors, vous le définissez un peu comme il se définit. Du reste, il faut rappeler que sa plume est extrêmement déliée, extrêmement agréable à lire, extrêmement plaisante.
Il écrit très bien. Oui.
Voilà, ce sont des générations d'hommes très cultivés.
Exactement.
Il faut se rappeler ça. Et donc, vous le définissez comme un conservateur orléaniste très catholique.
Oui, il est très pieux. C'est un conservateur. Il est tenté à un moment par le soutien, comme une partie de la classe dirigeante française, à Mussolini dans les années 1920.
Oui, qui a fasciné.
Durant la guerre d'Espagne, il est du côté du général Franco. Donc c'est pour ça que je disais que pour lui, tout le prédestine d'une certaine manière à dire plutôt Hitler que Staline et à acclamer le maréchal Pétain. Et d'ailleurs, en 1936, au Figaro, il signe un éditorialiste où il appelle à la constitution d'un gouvernement d'union nationale derrière un grand homme où tout le monde voit le maréchal Pétain. Mmh. Et il a, vis-à-vis du maréchal Pétain, des phrases d'admiration quand il le rencontre, qu'il déjeune avec lui dans les années 1930. Et c'est un point sur lequel je veux insister, c'est qu'il est, c'est un livre d'une très grande honnêteté. C'est-à-dire que Vladimir d'Ormesson n'essaye pas de nous dire qu'il a tout prévu, n'essaye pas de dire qu'il est gaulliste depuis le premier jour et qu'il n'a jamais été pétainiste. Il le dit lui-même au moment de l'armistice de juin 1940. Il ne voit pas d'autre solution que de servir le maréchal. Ça ne lui vient même pas l'idée de démissionner. Et de la même manière, il explique que il ne deviendra vraiment gaulliste qu'en 1944, en découvrant l'homme qui est arrivé en France, jusque-là, comme beaucoup, il y voyait une sorte de dictateur en herbe aux mains des communistes.
Voilà, et donc cette honnêteté fait tout le prix aussi de ce témoignage.
Et pour moi, ce qui, d'une certaine manière, est le plus émouvant, c'est que, vous savez, on dit « la France s'effondre », il y a eu un livre à un moment qui disait... qui parlait de ce moment en l'appelant 40 millions de Français. C'est en effet, on oublie les tragédies personnelles.
Voilà.
Le monde s'effondre sur Vladimir d'Ormesson comme il s'effondre sur 40 millions de Français.
Et il le raconte très personnellement.
Très personnellement.
Cet homme a beau être privilégié, favorisé et vivre entre, comme vous dites très justement, entre château et sacristie. Il se définit comme un écorché vif. Il a son fils et son gendre dans les combats et il écrit « Nous pleurions la nuit ».
Oui, alors son fils, il ne saura ce qu'est devenu son fils que au mois de juillet, c'est-à-dire après 5 ou 6 semaines d'angoisse, et son beau-fils apprend qu'il est mort pour la France. Mais ce qui est affreux, son beau-fils est lui-même fils d'un père mort pour la France en 1915. Et comme vous le dites vous-même, à plusieurs reprises, il dit « nous pleurions la nuit ». Il est à Rome, il est l'ambassadeur, il essaye de s'agiter pour son pays et il dit « avec ma femme, nous pleurions la nuit ». Et il y a une page admirable dans ce livre, très bien écrite mais bouleversante. Nous sommes le 15 juin 1940, il y a une cérémonie de béatification, je crois, une de ces grandes cérémonies à cette époque. L'Église catholique pratiquait encore le protocole à l'ancienne.
Ouais, elle le pratique toujours, je vous rassure, quand même.
Oui. Et donc, tous les ambassadeurs sont dans Saint-Pierre de Rome. Le 15 juin, il faut se rappeler que c'est le 14 juin que les Allemands sont entrés dans Paris. Et il raconte que tout le monde le regarde, évidemment, qu'il doit combattre pour ne pas éclater en sanglots. Et il dit que dans toute cette cérémonie, il n'y a qu'une chose, il entendait, disait-il physiquement, le bruit des chevaux et des camions qui étaient en train de violer Paris.
C'était physique.
C'était physique. Ouais. Il dit d'ailleurs un jour, il y a une très belle phrase, il dit « J'ai découvert alors qu'on pouvait souffrir autant pour sa patrie que pour un être humain ». Et c'est cette profondeur qui m'a beaucoup touché dans ce livre.
Alors on va évoquer justement cet aspect humain, on va se replonger dans l'ambiance sonore de l'époque, on va écouter un extrait d'un discours de Paul Reynaud qui était président du Conseil à l'époque, et donc on va écouter les mots qu'il a adressés aux Français le 13 juin 1940, on va sentir l'ampleur du drame.
Dans le malheur qui s'abat sur la patrie, faut avant tout qu'une chose soit dite. Au moment où le sort les accable, je veux crier au monde l'héroïsme des armées françaises, l'héroïsme de nos soldats, l'héroïsme de leurs chefs. J'ai vu, arrivant de la bataille, des hommes qui n'avaient pas dormi depuis 5 jours, rassalés par les avions, rompus par les marches et par les combats. Ces hommes, dont l'ennemi avait cru briser les nerfs, ne doutaient pas de l'issue finale de la guerre, ne doutaient pas du sort de la patrie. L'héroïsme des armées de Dunkerque a été dépassé dans les combats qui se livrent de la mer à l'Argonne. L'âme de la France n'est pas vaincue.
C'était donc le président du Conseil, Paul Reynaud, à la radio le 13 juin 1940, au cœur de la tourmente.
Les racines du présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier, nous lisons aujourd'hui le magnifique journal de Vladimir d'Ormesson, ambassadeur de France près le Saint-Siège, intitulé « Ma tragique ambassade » au Vatican du 27 mai au 1er novembre 1940. C'est publié chez Talendier avec une préface de notre ambassadeur Gérard Arrault. Nous sommes également en duplex avec Philippe Cheneau. Bonjour Philippe Cheneau, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous enseignez l'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran à Rome, que vous êtes vous-même l'un des biographes de Pie XII. Vous avez publié aux éditions du CERF une biographie intitulée « Pie XII, diplomate et pasteur ». Et puis l'an dernier, vous avez publié toujours au CERF un livre passionnant intitulé « La fin de l'antijudaïsme chrétien, l'Église catholique et les Juifs de la Révolution française au Concile Vatican II ». Alors Gérard Arrault, préfacier du journal de Vladimir d'Ormesson, nous a brossé le portrait de cet homme en quelque sorte hors du commun. Cet homme arrive au Vatican le 27 mai. Il se retrouve face à Pie XII. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, Philippe Cheneau, le contexte? Quel était... Pie XII venait d'être élu, il avait été élu peu de temps avant, c'était donc le cardinal Pacelli, un grand diplomate. Quelle était l'importance de l'ambassade de France près le Saint-Siège à cette époque-là, Philippe Cheneau?
L'ambassade de France auprès du Saint-Siège est une des grandes ambassades auprès du Saint-Siège. Et l'ambassadeur de France, traditionnellement, joue un certain rôle, évidemment, dans l'orientation de ce qui peut être qu'on pourrait appeler la politique vaticane. L'élection de Pie XII s'est faite très rapidement, puisqu'il était le grand favori du scrutin. Le conclave a duré moins de 24 heures. Et donc, il est élu. Il avait été, il convient de le rappeler, il avait été le secrétaire d'État de Pie XI. Donc, il incarnait la continuité, si l'on veut, de la politique antitotalitaire du dernier Pie XI. Ce qui explique que la grande majorité de suffrages des cardinaux s'était portée sur lui dès les premiers tours du scrutin, à commencer par les cardinaux français, avec l'appui de l'ambassadeur Charles Roux, dont dans le livre d'Ormesson le décrit comme le principal électeur de Pie XII.
Ambassadeur français. Alors il faut rappeler que donc le secrétaire d'État, c'est l'équivalent chez nous du ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre. Vous nous rappelez, Philippe Cheneau, l'importance de cette vision antitotalitaire du Vatican. Le cardinal Pacelli, avant de devenir Pie XII, avait été nonce à Munich et il avait vécu une expérience assez traumatisante. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cela, Philippe Cheneau?
Oui, il avait été nonce à Munich au moment de la révolution spartakiste et la nonciature de Munich avait été prise d'assaut par les gardes rouges et il a raconté qu'il avait été lui-même attaqué, arrêté, qu'on lui avait mis un pistolet sur la tempe et donc c'est un événement qui est resté profondément ancré en lui et dans lequel certains voient l'origine d'un anticommunisme quasi obsessionnel chez lui, qui remonte donc à ces années de l'annonciature de Munich à la fin de la Première Guerre mondiale.
Et puis, en 1933, il y a eu le concordat entre le Troisième Reich et l'Église catholique en Allemagne. Philippe Cheneau, expliquez-nous.
Oui, donc il va à peine rentrer à Rome, il est fait cardinal, il est nommé secrétaire d'État par le pape Pie XI et il va évidemment s'occuper très personnellement des affaires allemandes et c'est lui qui est à l'origine des négociations et de la signature du fameux Reichskonkordat de juillet 1933, donc qui est signé très rapidement, à peine 6 mois après l'arrivée de Hitler à la chancellerie du Reich. Et donc ce qu'il avait essayé de faire déjà dans les années 20 comme nonce en Allemagne, mais qu'il n'avait pas réussi, c'est-à-dire de signer un concordat à l'échelle de toute l'Allemagne, il a dû se contenter, si j'ose dire, de concordat avec certains Länder, certains États comme la Bavière et le pays de Bade, etc.
Alors, quelle était la nature des relations entre le cardinal Pacelli, devenu Pie XII, et le régime fasciste italien Benito Mussolini?
Ah, c'est des relations évidemment très 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 compliquées. Disons que Pacelli, comme tel, n'avait pas été associé. Son frère l'avait été à la négociation et à la signature des les fameux accords du Latran de 1929 qui mettaient fin à ce qu'on appelle la question romaine et qui redonnaient, au fond, reconnaissaient la souveraineté du Saint-Siège sur la cité du Vatican. Mais il avait, dans un texte qui a été publié à l'époque, évidemment approuvé, s'était réjoui de ces accords, et qui donc sont en vigueur au moment de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale et qui vont changer la donne par rapport à ce qui s'était passé pendant la Première Guerre mondiale. Les ambassadeurs des pays ennemis de l'Italie durant la Première Guerre mondiale, donc qui étaient les ambassadeurs des pays centraux, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, etc., avaient dû quitter le territoire italien et s'étaient repliés aux frontières de l'Italie, dans le canton du Tessin, donc en Suisse, à Lugano, ce qui n'est pas le cas au moment de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où l'Italie entre en guerre, donc il coïncide, l'entrée en guerre de l'Italie, on le voit bien dans le livre, coïncide avec l'arrivée quasiment de d'Ormesson au Saint-Siège. Et donc les ambassadeurs des pays alliés vont devoir se transférer, venir habiter au sein même du Vatican, qui est protégé par son statut d'extraterritorialité.
Oui,
Dormesson vivra pour toute la période de ces mois à l'ambassade, comme ambassadeur de France pendant ces 4 mois à Rome, au sein même du Vatican, à Santa Marta, où vit le pape actuel aujourd'hui.
Voilà, on va revenir sur ce déménagement que Vladimir Dormesson décrit avec beaucoup de précision. Il écrit « L'Italie s'est jetée sur le cadavre de mon pays ». Quelle était la nature des relations entre Vladimir Dormesson et Pie XII, Philippe Cheneau?
Je crois que ça sort assez bien dans le livre. Les deux hommes se connaissaient.
Oui.
Ils s'étaient rencontrés au moins 2 fois avant l'élection de Pie XII au pontificat, notamment lors de la fameuse grande visite du cardinal Pacelli à Paris en juillet 1937 pour l'inauguration de la basilique de Lisieux. Et il avait fait à cette occasion un grand discours à Notre-Dame où il exaltait la vocation chrétienne de la France. Et successivement, lors d'une réception, je crois, au Quai d'Orsay, il avait eu l'occasion d'approcher le cardinal Pacelli. Et donc, il se connaissait. Je pense qu'il s'appréciait, parce qu'il y avait un certain nombre d'affinités entre les deux hommes, affinités de milieu social, de tempérament, de sensibilité. Tous deux étaient des diplomates, au fond, des gens bien élevés. Et ce qui m'a frappé, à un moment donné, quand il parle de Pie XII, il le définit comme un homme essentiellement bien élevé. Et dans sa
que faut-il
dans
en
sa
comprendre
bouche, c'est évidemment un compliment pour l'aristocrate qui est d'Ormesson.
Oui.
Mais malgré cela, il est amené à reconnaître bien vite une certaine faiblesse de caractère d'un pape trop diplomate, et diplomate au sens de la vieille école, d'un homme du 19e siècle, au fond, qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui n'est pas accordé, comme il dit, à la gravité des temps, aux événements qui se déroulent en direct, si j'ose dire, en 1940.
Et les événements qui s'accélèrent. On constate en lisant ce journal de Vladimir Dormesson, dont je rappelle le titre, « Ma tragique ambassade, Vatican, 27 mai, 1er novembre 1940 », c'est chez Talandier, avec une préface de Gérard Haro. On constate que Vladimir Dormesson s'était presque mis en tête de tenter, à travers sa relation avec le pape Pie XII, tenter de convaincre Mussolini de ne pas envahir la France. C'était réaliste ou c'était désespéré, Philippe Cheneau?
Je pense que c'était pas très réaliste. Et d'ailleurs, il a bien vite déchanté une fois arrivé à Rome. Et ça a été, on le voit dans le journal, dans le livre, c'est sa première déception au fond. Lorsqu'il commence à ses entretiens avec le pape, mais aussi avec le cardinal Malione, auquel il était très lié aussi, il se rend compte bien d'une certaine impuissance du Vatican, notamment à influer sur la politique italienne, dans le sens d'essayer de convaincre Mussolini et les dirigeants italiens de garder une attitude de neutralité, de ne pas entrer dans la guerre aux côtés de l'Allemagne nazie.
Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, sur la situation en France, ces journées en France. Dans ce livre, Vladimir d'Ormesson brosse une série de galeries de portraits tout à fait savoureux. Notamment, je me tourne vers Gérard Arrault, le portrait de Alexis Léger, plus connu sous le nom de plume de Saint-Jean-Perse, donc poète, qui était secrétaire général, sauf erreur de ma part, du Quai d'Orsay, un homme réputé tout puissant. Et voici ce qu'en dit Vladimir d'Ormesson, un verbal et un verbeux qui prenait ses développements oratoires, brillants mais fumeux, pour des actes. Quelle plume, Gérard Arrault.
Oui, parce que Vladimir d'Ormesson a, je dirais, a la qualité du dévot qui souvent a la dent fort dure pour les péchés des autres. Et donc, il y a en effet le portrait d'Alexis Léger. D'ailleurs, anecdotiquement, si d'Ormesson part à Rome, c'est parce que Charles Roux, notre ambassadeur à Rome, qui était à Rome, comme le disait le professeur Chéneau, est nommé secrétaire général, oui. Paul Reynaud, limogeant le 19 mai Alexis Léger, qui a été secrétaire général depuis 6 ans au ministère des Affaires étrangères. Mais vous avez aussi le portrait d'Albert Lebrun, le président de la République. Vous avez le portrait de Paul Reynaud.
Oui, alors Paul Reynaud, voilà ce qu'en dit Vladimir d'Ormesson, il ne sut pas dominer les autres parce qu'il ne sut pas se dominer lui-même.
Et c'est une France où on avait lu les moralistes du XVIIe siècle,
voilà.
L'ombre de Saint-Simon. Saint-Simon, La Rochefoucauld, La Bruyère, fait que nous avons droit à ces... Il y a aussi le portrait de Gamelin, où il voit en Gamelin beaucoup plus un patron d'entreprise qu'un grand chef militaire. Ce que d'ailleurs chacun a reconnu très largement.
Et puis le portrait de Philippe Pétain, je cite, « Une lampe dans laquelle on voit encore un peu d'huile, mais un peu seulement, si vieux, si usé, si peu au courant de tant de choses. » Et pourtant, Vladimir d'Ormesson avait en lui, comme vous l'avez dit, Gérard Arrault, une sorte de confiance mystique.
Alors, Vladimir d'Ormesson est rappelé par Vichy. Donc, vous l'avez dit, il quitte ses fonctions à la fin octobre, au tout début novembre 1940. Il rentre en France, dans la zone libre. Et là, naturellement, il demande rendez-vous au maréchal et on reçoit un d'Ormesson.
Oui.
Et là, il y a une scène, alors je ne vais pas la déflorer, si j'ose dire, pour les lecteurs de ce livre, et il y a une scène qui serait hilarante si elle n'était pas tragique, étant donné la tragédie qui s'est abattue sur notre pays, c'est l'entretien entre Pétain et notre auteur. D'ailleurs, je dévoile simplement
Allez-y.
Le tout début,
Allez-y.
Où il dit, le maréchal lui dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes rentré? Et d'Ormesson lui dit, mais monsieur le maréchal, parce que vous m'avez rappelé. Et ensuite, rentre un huissier qui dit, monsieur le maréchal, monsieur Pérouton veut vous voir. Et Pétain dit, monsieur Pérouton, le ministre de l'Intérieur, oui. Monsieur oui. le maréchal.
Voilà.
Et donc, c'est un peu... Voilà.
Il y avait des moments d'absence, pour le moins.
Il y a des moments, oui. On voit bien, il y a des moments d'absence. Il y a des moments d'absence.
Des difficultés cognitives, comme on dit aujourd'hui.
Voilà.
Alors, cette galerie de portraits aussi s'applique aux personnages et aux acteurs de la scène diplomatique vaticane. Philippe Chenot, autour de Paul VI... On rencontre autour de Pie XII, pardonnez-moi, on rencontre, j'allais le dire, le futur Paul VI, c'est-à-dire le cardinal Montini. Pouvez-nous rappeler, Philippe Chenot, quelles étaient les fonctions de Gian Battista Montini à l'époque, auprès de Pie XII?
Gian Battista Montini était le substitut à la secrétaire d'État, donc le bras droit de Pie XII, si l'on peut dire, en charge notamment de toute l'action humanitaire du Saint-Siège. C'est à lui qu'il incombera de mettre sur pied un bureau d'information pour les prisonniers de guerre dès le début du conflit. Donc il avait un accès immédiat, quasi quotidien, au pape. Et d'ailleurs, on vient de publier en Italie les procès-verbaux de ces différents entretiens qu'il a eus quasiment au quotidien avec Pie XII.
Alors, quelle était la position, justement, du substitut, du cardinal Montini, par rapport à la cessation des combats par la France?
Eh bien, je crois que ça n'apparaît pas... qui n'était pas cardinal à l'époque, Monseigneur Montini...
Oui, pardonnez-moi. Oui.
Ne se distingue pas forcément, n'aimait pas forcément une opinion très personnelle. Et Je trouve assez juste ce que dit, pour avoir moi-même étudié aussi Paul VI, j'ai publié une biographie de Paul VI il y a quelques années, et j'avais moi-même été aussi frappé par une certaine ambivalence du personnage qui ressort aussi dans ce que nous lit d'Ormesson dans son livre.
Sur quel plan?
À savoir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on sent qu'il a une indépendance de jugement, de pensée, qui voudrait la faire valoir, la faire sentir, mais d'un autre côté, qu'il est très, très attaché au respect du devoir qui incombe à sa fonction. Mmh. Donc, de ne pas pouvoir dire les choses comme il voudrait les dire, au fond. Et donc, il dit à un moment donné, je trouve assez juste, Montini, il est insaisissable. Insaisissable. Et bien qu'ayant une grande sympathie pour lui, notamment par le fait qu'il est, c'est un grand ami de la France, Montini. Hein,
oui, francophone.
Et qu'il verra très vite en lui un possible successeur à Pie XII. Il dit apprécier davantage de ce point de vue-là l'alter ego de Montini, qui est Domenico Tardini, mm-hmm. qui était le secrétaire pour la Congrégation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires, si on veut, le ministre en charge des Affaires étrangères de l'Église, du Vatican, et dont il nous dit qu'il était beaucoup plus franc, beaucoup plus direct. Au moins, dit-il, avec lui, on savait à quoi s'en mm-hmm. tenir.
Mais si on lit bien Vladimir d'Ormesson, on comprend que la priorité des responsables de la diplomatie vaticane pendant ces mois si compliqués, c'était la défaite de l'Allemagne dont ils craignaient le paganisme. Est-ce que vous confirmez cette analyse, Philippe Chenot?
Oui, absolument. Et ce qui est intéressant dans le livre de d'Ormesson, c'est qu'on voit très bien que le pape dit certaines choses qui peuvent souvent décevoir parce qu'elles ne vont pas dans le sens d'une condamnation très claire des coupables, des agresseurs, comme dans le cas de l'agression de la Pologne qui a donné lieu au déclenchement de la guerre. Mais d'un autre côté, on voit qu'en privé, effectivement, la position du Vatican est quand même très favorable à la cause des alliés. Et on attend notamment l'entrée en guerre des Américains. Et donc là, voilà. Il n'y a aucune...
Ils admirent la résistance de la Grande-Bretagne. Et contrairement à certains évêques français, il semble, si on lit bien Vladimir d'Ormesson, il semble assez indifférent à la révolution nationale prônée par
Vichy. Oui, c'est un aspect du livre qui m'a aussi frappé, cette réserve de Pie XII et de son entourage à l'égard du régime de Pétain. Oui.
Notamment son orientation, disons, ultra-cléricale.
Oui.
Là, il y a une réserve. Alors, donc, le grand débat autour de Pie XII, c'est évidemment quelle a été son attitude face au nazisme et face au fascisme. Et il y a une pièce à verser au dossier, une pièce sonore qu'on va écouter très très brièvement. C'est ce fameux message radio diffusé de Noël 1942. Ce message qui a été reproché à bien des égards à Pie XII. On va en écouter un extrait et je vous demanderai votre réaction, votre analyse, Philippe Chenot.
Questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone, le quali senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento.
Voilà, c'était la voix de Pie XII qui s'adressait donc à Noël 1942, qui s'adresse au monde, et je vous traduis ce texte, ce vœu de paix, l'humanité le doit aux centaines de milliers de personnes qui, sans aucune faute de leur part, et uniquement pour des raisons de nationalité ou d'origine, ont été vouées à la mort ou à une extermination progressive. Alors évidemment, Pie XII, Philippe Chenot, ne cite ni les bourreaux ni les victimes, et on lui a beaucoup reproché.
Oui, il parle dans le langage allusif de la curie. On a pu parler d'une langue de bois de Vatican.
On en parle toujours.
Mais enfin, l'allusion est tout de même assez claire. Parce que dans les semaines qui ont précédé le discours, c'est-à-dire la deuxième partie de l'année 1942, il y a quand même toute une série de rapports, d'informations qui parviennent au Vatican et qui montre la gravité de ce qui se passe à l'Est, des persécutions en cours et de cette politique d'extermination des Juifs qui commence à être mise en œuvre. Donc à un moment donné, c'est ce que j'avais pas tenté d'expliquer dans ma biographie,
oui.
Le pape s'est posé la question de savoir s'il convenait ou non de parler et de quelle façon.
Alors, qu'est-ce qui a pesé dans la balance?
Il a choisi de parler, mais à sa façon, c'est-à-dire sans dire les choses tout à fait clairement, parce qu'il était tout encore prisonnier de l'idée que le Saint-Siège devait rester impartial dans le conflit et que toute dénonciation claire contre l'une des parties à ce conflit, en l'occurrence l'Allemagne nazie, pouvait porter atteinte à ce principe de l'impartialité.
Et je crois aussi qu'il avait en tête
l'Église. Mais ce qui est intéressant, oui, c'est qu'au lendemain de ce discours, dans plusieurs témoignages, des lettres même qu'il a écrites, on a l'impression qu'il est content, qu'il a l'impression que son discours est passé, qu'il a été reçu, qu'il a dit ce qu'il fallait dire au fond. Mais évidemment, il est en décalage avec la perception, la plupart des chancelleries et des...
Oui.
Et de l'opinion.
Gérard Aron voudrait réagir.
Je pense qu'il est aussi en décalage par rapport à la gravité de, oui, de la situation. C'est au fond, comme vous l'avez dit, comme le professeur Chénault l'a dit, c'est un diplomate, il réagit en diplomate. Au tout début, pour revenir aussi sur ce que dit le professeur sur la Pologne, lorsque les Allemands envahissent la Pologne, tout de suite, il commence à commettre des atrocités aux dépens des Polonais, on fusille des prêtres, et dont notre ambassadeur de l'époque, Charles Roux, va voir le pape en lui disant « c'est un pays catholique qui est en train d'être écrasé ». Et le pape, comme face à d'Ormesson, le pape réagit en diplomate. Et le télégramme que Charles Roux a envoyé est assez étonnant au Quai d'Orsay, où il dit « mais c'est incroyable, ce pape ne voit pas la dimension morale du conflit ». Alors, d'un certain point de vue, et le journal de d'Ormesson le prouve, contrairement à toutes les attaques stupides qui ont été conduites contre le pape n'était absolument pas favorable au nazisme, et comme vous l'avez dit, il est profondément contre, il est pour la défaite des totalitarismes nazis, pour la victoire de l'Angleterre, ça d'ailleurs, ça surprend de la protestante Angleterre, ça surprend, va d'ailleurs Vladimir d'Ormesson, dès septembre 40, le pape exprime son admiration pour la résistance anglaise, mais il n'est pas, et ça aussi d'Ormesson le laisse entendre, il n'est pas à la hauteur, si j'ose dire, en tant que pasteur, qu'autorité morale, de l'horreur absolue qu'est en train de vivre le peuple juif et derrière lui une grande partie de l'Europe.
Philippe Chenot, vous avez eu accès, comme beaucoup d'autres chercheurs universitaires, vous avez pu avoir accès récemment aux archives de Pie XII qui ont été ouvertes. Quel type d'éclairage peuvent-elles apporter aujourd'hui sur ce dossier?
Bon, je pense pas qu'on puisse parler de révélations fracassantes par rapport à ce qu'on savait déjà, et ce qui a été écrit, notamment ce que j'avais moi-même écrit dans ma biographie publiée maintenant il y a plus d'une vingtaine d'années. Mais néanmoins, sur certains points, on peut affiner les analyses que l'historien peut proposer.
Oui, par exemple.
Notamment sur le fait de la persistance dans l'entourage immédiat du pape, de ce qu'on pourrait appeler une mentalité anti-juive.
Vous dites bien anti-juive et non pas antisémite.
À bien distinguer de l'antisémitisme et de l'anti-juive dans le sens d'une hostilité au judaïsme en tant que religion, etc., qui remonte au premier siècle de l'Église, que j'appelle précisément l'anti-judaïsme chrétien.
D'accord.
Et qui fait que on ne prend pas toujours au sérieux, comme il le faudrait, les informations qui parviennent et qui souvent parviennent de sources précisément juives. Il n'est pas rare de voir parmi les notes, dans les commentaires qu'on fait de ces informations qui parviennent au Vatican, qu'il s'agit d'une exagération. Les Juifs exagèrent comme toujours, et donc il est difficile de les croire. Et d'un autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a la peur d'une instrumentalisation politique, cette fois, d'une prise de position trop claire du Vatican en faveur des Juifs. Donc toujours ce principe de l'impartialité qui doit être respecté et qui paralyse au fond le Saint-Siège et qui le contraint à un certain silence.
Gérard Aron, je rappelle que vous avez été ambassadeur à Tel Aviv.
Voilà. Oui. Et il y a aussi le fait que souligne, je crois, Vladimir d'Ormesson, que tout simplement une grande partie du personnel de la Curie est italienne, et que donc un grand nombre de ces prélats ou de ces fonctionnaires du Vatican, eh bien, ont tout simplement éprouvent des sympathies pour la cause de l'Italie fasciste.
Oui, il y a une sorte de d'osmose naturelle. Est-ce que vous confirmez ça, Philippe Chenot?
Oui et non. Il faut voir selon les personnes.
Oui.
Il y a un prélat en particulier qui se distingue par ses notes à caractère anti-juif, antisémite, c'est Monsieur Delacroix, qui était l'un des collaborateurs de Tardini au sein de la première section de la Secrétaire d'État, qui deviendra ensuite cardinal, etc., et qui, lui, fait beaucoup de notes, etc., mettant en garde contre ce qu'on appelait à l'époque, il faut le rappeler, la perfidie juive, en quelque sorte, qui n'a pas...
Oui,
c'était
une expression courante,
à l'époque. Ce qui fait que le Vatican, au fond, n'a pas mesuré l'ampleur de ce qui s'est passé à l'Est durant la guerre, l'immensité, l'unicité, la singularité de la tragédie de la Shoah, et et de ce fait-là, il n'a pas joué le rôle qui aurait dû être le sien au lendemain de la guerre pour promouvoir une véritable campagne de lutte contre l'antisémitisme, qui aboutirait aussi à ce qui est arrivé au moment du Concile, à la révision de l'enseignement de l'Église sur les Juifs et Israël.
Est-ce que vous voulez dire, Philippe Chenot, qu'à l'époque, donc dans ces années 1939-1945, eh bien, le Vatican n'était pas équipé intellectuellement, voire spirituellement, pour prendre conscience de la singularité de ce qui se passait?
Je pense que oui, parce que les informations sont arrivées de diverses sources, de divers côtés, mais qu'on a eu du mal à les prendre au sérieux pour diverses raisons. Mais l'une de celles-là était qu'il y avait cet obstacle qui est représenté par un certain nombre de préjugés, de stéréotypes qu'on avait au sujet des Juifs, du peuple déchu, du peuple maudit. Et ça remonte au premier siècle du christianisme.
Vladimir d'Ormesson cite notamment la personnalité du cardinal Canali, dont il dit qu'il était sourdement antisémite.
Oui, non, lui, c'est l'un des plus durs, enfin les moins sympathiques en tout cas, de ce point de vue-là, parmi les cardinaux de Curie. Et je dois dire que je partage entièrement le jugement de d'Ormesson sur Canali, comme d'ailleurs celui assez dur aussi sur Pizzardo, qui était le secrétaire, le préfet de la Congrégation des séminaires et des universités, et qui lui était un sympathisant du fascisme et un adversaire déclaré de la pensée catholique française, et notamment de ce qu'on appelait le maritainisme.
C'est-à-dire
cet ensemble d'idées, de pensées, qui d'auteurs qui se réclamaient de l'influence de Jacques Maritain, et notamment de son grand livre Humanisme intégral, publié en 1936. Lorsqu'il a été nommé par le général de Gaulle comme ambassadeur au Vatican en 1945, à la fin de la guerre, la secrétaire d'État a donné son agrément, mais sans cacher qu'elle aurait préféré quelqu'un qui ne fût pas, impliqué dans des querelles, des controverses partisanes. Mmh. Donc l'agrément a été donné, mais avec une certaine réserve à la nomination de Maritain.
Et puis, il y avait également au Vatican à cette époque-là, notamment dans l'entourage de Pie XII, un Français, le cardinal Tisserand, dont Vladimir d'Ormesson reconnaît qu'il était ardemment patriote.
Le primat de Gaulle. Oui, on l'appelait le cardinal de Gaulle.
Le cardinal de Gaulle, c'est ça.
Dès le début de la guerre. Oui. Et on dit même que c'est le seul cardinal français qui n'aurait pas voté pour Pacelli lors du conclave de 1939. Reprochait aussi une certaine faiblesse, un manque de tempérament. Donc, il ne voyait pas en lui un homme accordé à la gravité des événements qui se déroulaient.
Oui. Alors, on voit donc ce contexte extrêmement composite, extrêmement complexe à comprendre, qui en fait ne met en jeu que très très peu de personnes, le tout dans le tout petit monde du Vatican, que Vladimir d'Ormesson décrit très très précisément. Gérard Haro, il décrit la vie recluse à Sainte-Marthe.
C'est
tout à fait fascinant de voir ça.
Oui, parce que donc les ambassadeurs, comme l'a expliqué le professeur Chenot, les ambassadeurs alliés, donc le Belge, le Français et le Britannique doivent s'installer à Sainte-Marthe.
Parce qu'ils doivent quitter le territoire italien.
Ils doivent quitter le territoire italien. Et d'ailleurs, d'Ormesson accuse d'une certaine manière les fonctionnaires italiens les fonctionnaires italiens du Vatican de n'avoir rien rien fait et de ne rien faire pour les accueillir dignement.
Donc, il y avait beaucoup de travaux à faire, manifestement.
Il y avait beaucoup de travaux à faire, même pour avoir les salles de bain. Enfin, donc, voilà, ils campent un petit peu à Sainte-Marthe. Ils sont donc prisonniers de ces 44 hectares, hein, je rappelle, du Vatican. Ils ne peuvent pas en sortir. Et donc, on l'imagine, ils n'ont pas de nouvelles aussi.
Oui, ils n'ont pas d'informations. Ils font bricoler une radio.
Exactement, parce que les Italiens évidemment brouillent les radios alliées, le Quai d'Orsay qui de façon est en train a d'autres choses à faire puisque le pays est en train de s'effondrer, donc d'envoyer des informations
donc, il est tout seul,
il se débat tout seul, on le sent bien, il y a un côté aussi un peu pitoyable. On sent que l'homme essaye de faire de son mieux, donc il harcèle Pie XII pour obtenir un mot du pape.
Il souffre, il pleure.
Oui. Il est déchiré. Et d'ailleurs, ce livre a été rédigé en novembre 1942, lorsque les Allemands envahissent la zone libre et où lorsque d'Ormesson rentre dans la clandestinité. Et donc il le rédige un petit peu et lorsque il le relit en 1954, il fait une petite préface où il dit sans doute ce livre a été écrit dans l'émotion, il y a peut-être des formules peut-être un peu trop fortes à l'égard du Saint-Père, mais il ne corrige pas le livre.
Oui, et puis c'est ce qui en fait tout le sel aujourd'hui.
Et c'est en fait le sel aujourd'hui, c'est que c'est un livre écrit dans des circonstances exceptionnelles et il en porte la marque.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Nous conversons aujourd'hui autour du livre passionnant de Vladimir d'Ormesson, qui fut notre ambassadeur près le Saint-Siège, qui a été auprès de Pie XII, donc entre le 27 mai et le 1er novembre 1940. Ce texte, jusqu'alors inédit, est intitulé « Ma tragique ambassade ». Il est publié chez Talendier avec une préface de l'ambassadeur Gérard Haraud, qui est avec nous aujourd'hui. Et nous sommes également en duplex à Rome avec le professeur Philippe Cheneau, qui enseigne l'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran à Rome. Philippe Cheneau, vous avez publié une biographie de Pie XII, de Paul VI également. Et puis, l'an dernier, au CERF, vous avez publié un livre intitulé « La fin de l'anti-judaïsme chrétien, l'Église catholique et les Juifs de la Révolution française au Concile Vatican II ». On voit bien, en vous écoutant, professeur Cheneau, que ce contexte anti-juif est quelque chose qui était historiquement très très présent à la Curie à l'époque. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots comment est-ce qu'on a pu en sortir ? Comment est-ce que l'Église a pu sortir de cette gangue idéologique, spirituelle, intellectuelle qui l'avait presque tétanisée par rapport aux Juifs pendant plusieurs siècles ? Expliquez-nous, Philippe Cheneau.
L'impact de la Shoah a été quand même assez considérable. Et elle a conduit un certain nombre de catholiques, au lendemain de la guerre, à prendre des initiatives pour promouvoir la révision de ce que Jules Isaac a appelé à ce moment-là l'enseignement du mépris. Et de ce point de vue-là, une date importante est la fameuse conférence de Seelisberg qui s'est déroulée en Suisse en 1947, et en présence d'un certain nombre de catholiques, et qui s'est terminé avec l'adoption d'une espèce de charte en 10 points, les fameux 10 articles de Seelisberg, et qui sont véritablement un premier pas en direction d'un renouvellement de la pensée de l'Église sur les Juifs et le judaïsme. Et tout cela va prendre corps au moment du Concile Vatican II, dans la déclaration Nostra Aetate, qui marque véritablement la fin de l'antijudaïsme chrétien, la reconnaissance par les catholiques, par l'Église, d'une filiation spirituelle entre le peuple du Nouveau et le peuple de l'Ancien Testament. Ce que Pion, d'ailleurs, avait dit magnifiquement déjà en 1938, au moment de la promulgation des lois racistes en Italie. Au fond, disait-il, nous sommes spirituellement des sémites.
Et les Juifs
sont nos frères
ennemis.
Ce qui me frappe dans le livre, c'est qu'il n'est pas, dans le livre de d'Ormesson, il n'est pas beaucoup question, en fait, de la question juive. Ça devrait échapper.
Peut-être était-il un peu tôt encore,
Peut-être, puisque le premier statut des Juifs est de l'octobre 40, c'est-à-dire au moment où il quitte le Saint-Siège. Je dis ça parce que son successeur, Léon Bérard, devra, à la demande du maréchal Pétain, rédigera un long rapport, un long mémorandum sur la question de l'antisémitisme au moment, au lendemain de la publication du second statut des Juifs, dans lequel il cherche à montrer au fond que ces dispositions ne vont pas complètement à l'encontre de l'enseignement de l'Église et que le Saint-Siège n'y trouve rien à redire. Donc le fameux rapport Bérard de septembre 41 qui a fait beaucoup discuter les historiens et qui a réjoui Pétain, mais qui a été un sujet d'interrogation, notamment pour le nonce à Vichy, Mgr Valéry, qui s'est étonné que l'ambassadeur Bérard ait pu écrire dans ce sens-là. Donc il y a eu toute une mini polémique autour de ce rapport qui date de septembre 41.
On va faire une grande avancée dans le temps. Gérard Araud, je rappelle que vous avez été notre ambassadeur à Tel Aviv. Qu'est-ce que vous avez pu observer des relations sur place en Israël, entre les relations entre l'Église catholique et l'État d'Israël?
Mais ce sont des relations en réalité qui sont assez compliquées parce que le Saint-Siège essaye de protéger les institutions catholiques et en particulier dans la ville de la ville de Jérusalem,
les écoles, les hôpitaux.
Or, ces communautés catholiques, et notamment ces monastères, ces maisons religieuses, en réalité, sont prises, si j'ose dire, entre l'enclume juive et le marteau musulman.
Ou l'inverse,
tout à fait. Ouais. Des villes chrétiennes, autrefois chrétiennes, comme Bethléem ou Nazareth, sont aujourd'hui à très grande majorité musulmanes. Les chrétiens s'en vont, les chrétiens émirent ou font moins d'enfants que les musulmans, et donc on a un peu l'impression d'une communauté qui peu à peu, je dirais, d'une communauté qui peu à peu s'étiole. Et de surcroît, à Jérusalem, il y a un véritable conflit pour essayer de judaïser la ville.
Voilà, sur la maîtrise des sols.
Cette judaïsation passe par la maîtrise des sols, par l'achat des terres, et c'est pas tellement les catholiques qui sont en jeu. Pourquoi ? Parce que d'abord, le patriarcat catholique n'a été recréé qu'en 1860. Donc finalement, c'est une église plutôt jeune qui n'a pas beaucoup de biens. Et
une
en plus,
latine,
elle a été totalement palestinisée.
Oui.
Toutes les hiérarchies, y compris d'ailleurs, je pense aujourd'hui, le patriarche, sont des Palestiniens et donc sont liés à la Palestine. Et donc, pour les catholiques, il n'est pas question de vendre des bâtiments aux Israéliens. En revanche, les deux autres patriarcats, le patriarcat grec orthodoxe, qui lui est immensément riche, puisqu'il vient depuis le 3e ou 4e siècle, et il n'y a pas eu de rupture, et le patriarcat arménien ont beaucoup de terres, et leur hiérarchie est restée pour l'une grecque et pour l'autre arménienne.
Et on sait qu'il y a eu des conflits très importants.
Et en ce moment, il y en a d'ailleurs
en ce moment
les arméniens, parce que du coup, je dirais, sans vouloir rompre l'œcuménisme, disons qu'un certain nombre de ces prélats non palestiniens sont quand même assez sensibles à la corruption.
Voilà.
On a même vu une cession de terrain qui aurait été signée par un patriarche orthodoxe sur son lit de mort. C'est ce que ses collaborateurs affirment.
Oui, l'Orient est parfois compliqué. Il nous reste une poignée de minutes autour de cette conversation passionnante, autour de la personnalité de Vladimir d'Ormesson qui publie chez Talendier son journal diplomatique intitulé « Ma tragique ambassade, Vatican, 27 mai 1er novembre 1940 » avec une préface de Gérard Araud. Gérard Araud, vous avez une petite pique à l'encontre de ce qu'on appelle le département, c'est-à-dire le Quai d'Orsay. Vous notez que Vladimir d'Ormesson a finalement relativement peu de contacts au Quai d'Orsay à l'époque, on peut comprendre, compte tenu de l'effondrement de l'État. Mais vous écrivez « Le Quai a toujours négligé l'information de ses agents à l'étranger ».
Oui, ça
c'est. Est-ce une réalité?
Oh oui, c'est toujours une réalité. Souvent, vous savez, souvent il y avait des entretiens. Par exemple, le président de la République rencontre un homologue, et nous n'avons pas de compte rendu. L'ambassadeur n'a pas de compte rendu, et donc je me retrouve face à l'ambassadeur du pays justement de l'homologue, qui lui a le compte rendu, qui me dit est-ce que ton compte rendu est comparable au mien? Et là, comme on n'ose pas avoir honte en disant mais j'ai pas de compte rendu, eh bien là on essaye de jouer pour ne pas avoir l'air totalement stupide. C'était le cas quand j'étais en poste et je sais que c'est toujours le cas. Comparé à nos collègues britanniques, c'en est quasiment humiliant de ce point de vue-là. Nous fonctionnons moins bien qu'eux.
Voilà, donc il y a des lignes dans ce journal de Vladimir d'Ormesson qui sont encore très très contemporaines. Un dernier mot, Philippe Chenot, on se souvient du procès qui a été fait à Pidouze, ce procès en absence de solidarité. On se souvient de la pièce et du film Le Vicaire dans les années 60. C'était un mauvais procès. Vous qui avez travaillé sur l'ensemble du dossier, qui avez eu accès aux archives, Philippe Chenot, c'est un mauvais procès. Philippe, Pidouze n'était que le produit de son époque, le produit d'une diplomatie, ou bien est-ce qu'on aurait pu aller plus loin?
Je pense que oui, c'est un mauvais procès, parce que Pidouze était au fond un homme de son temps, effectivement, avec tout ce que cela peut comporter de préjugés, de stéréotypes, et il était aussi le produit d'une histoire, de son histoire personnelle. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma biographie, que les choix qui ont été les siens pendant la guerre s'expliquent aussi par ses expériences antérieures, sa longue carrière au service du Saint-Siège. Donc il y a une certaine logique dans ce qu'il a fait pendant la guerre, mais à coup sûr, ça, il n'avait pas la trempe d'un prophète, ça c'est évident. Juste une chose à propos de d'Ormesson, là.
Oui.
Lorsqu'il revient, parce qu'il va revenir à Rome, au Saint-Siège.
Oui, absolument, hein, oui.
Il succède à Maritain en 48, donc on est au lendemain de la création de l'État d'Israël. Mm-hmm. Et là, me semble-t-il, pour les recherches que j'ai pu faire, on voit qu'il a une attitude beaucoup plus, pas critique, mais distante, disons, par rapport à Israël. Et il est très préoccupé, d'ailleurs, en pleine harmonie avec les vues du pape, à promouvoir une campagne pour la défense des lieux saints, l'accès aux lieux saints, l'internationalisation des lieux saints, etc. Et avec le soutien de Schumann, d'ailleurs, etc. Donc il en fera un de ses chevaux de bataille à peine arrivé à Rome pour son second mandat, qui celui-là durera beaucoup plus longtemps.
Oui, jusqu'en 1956.
Il restera 8 ans à Rome.
Oui, c'est ça.
Oui, alors,
un dernier mot, Gérard.
Oui, la France ne reconnaît officiellement l'État d'Israël qu'en mai 1949, parce qu'il y a eu une longue négociation afin que l'État d'Israël reconnaisse le droit de protection qu'exerce la France sur les institutions catholiques.
Depuis François Ier.
Depuis François Ier, les accords de Mytilède et de Constantinople de 1913. Et moi-même, ambassadeur, je prenais ma canne, mon chapeau et mes gants de beurre frais pour défendre les congrégations catholiques face aux exigences fiscales de l'État d'Israël au nom de ces accords.
Et c'est toujours le difficile métier du consul général à Jérusalem
qui
porte ce dossier-là également. Un grand merci à tous les deux. Un grand merci à Philippe Chenot qui était avec nous en duplex de Rome. Je rappelle que Philippe Chenot enseigne l'histoire de l'Église moderne et contemporaine à l'Université du Latran et qu'il a publié une biographie de Pidouze, une biographie de Paul VI et puis plus récemment en 2023 la fin de l'antijudaïsme chrétien, l'Église catholique et les Juifs de la Révolution française au Concile Vatican II. Un grand merci également à l'ambassadeur Gérard Haraud qui est le préfacier de ce livre dont je recommande vivement la lecture intitulé « Tragique ambassade ». Il est signé de Vladimir d'Ormesson. Ma tragique ambassade, donc 27 mai, 1er novembre 1940, c'est chez Talendier. Ça se lit vraiment comme un journal personnel, ça se lit comme un thriller politique, un thriller spirituel. Je recommande vivement la lecture de cet ouvrage. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Je rappelle que Gérard Haraud a publié un livre passionnant consacré à notre histoire diplomatique entre les deux guerres qui s'intitule « Nous étions seuls » et c'est chez Talendier, qui aide à comprendre ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé entre les deux guerres. Voilà, vous pouvez évidemment retrouver cette émission en balado-diffusion, en podcast à partir de votre plateforme favorite de podcast. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité et à la semaine prochaine.